Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Nouveau drame en Méditerranée, environ 250 migrants africains auraient trouvé la mort dans les naufrages des deux canots gonflables qui ont été repêchés jeudi au large de la Libye par une ONG. Ces Africains, en majeure partie des jeunes, sont parmi des milliers qui tentent de rejoindre l'Europe par la Méditerranée à la recherche du mieux-être. Cette affaire relance les débats sur les conditions intérieures des États africains dans l'encadrement de la jeunesse. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct, mais également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jir Lungembo est à la réalisation et coordination de cette émission mise en onde par Mimi Kindou et Pierrot Elamegi vous la présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Au total, des milliers de personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée depuis le début de l'année 2016 et la fin de cette année début 2017. La majeure partie des jeunes africains de l'Afrique subsaharienne qui cherchent à rejoindre l'Europe pour chercher les meilleures conditions de vie, qui sont victimes du trafic des êtres humains en Libye. Et tous ces drames d'immigration remet en surface les débats autour des politiques intérieures des États africains dans l'encadrement de la jeunesse. Rappelons que la charte africaine de la jeunesse dans son préambule estime que la jeunesse est aujourd'hui la force et le moteur même de l'Afrique. Et cette charte a quand même des articles très très importants en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'intégration socio-économique des jeunes, la création des emplois pour la jeunesse. Que pensez-vous des politiques intérieures africaines en faveur de la jeunesse? Le débat est ouvert au 09 97 06 49 69, mais également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et Gervais, vous êtes avec nous de Calémie, et vous êtes revenu largement sur cette charte africaine de la jeunesse et les articles qui consacrent bien sûr une grande partie du travail que les États africains devraient faire pour la jeunesse. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. D'entrée de jeu, je dirais que tout jeune, s'il faut ajouter africain, doit avoir un droit à un emploi rémunérateur. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce qui est à la base de tout ça, c'est donc la non-application de certains tests cadrants avec la jeunesse, telle en l'occurrence la charte africaine de la jeunesse, où les dispositions suivantes sont sacrifiées. Par exemple, en outre, donc, entre autres, nous avons l'article 11, 12, 14, 15, 13, 16, 17, 18, 19 et 26 qui parlent des responsabilités des jeunes. Et aussi, quand associé à ce sujet, nous aimerions que les États africains puissent toutefois, en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'intégration socio-économique telle que stipulée l'article 14 de la dite charte, donc reconnaître les droits de jeunes d'avoir des conditions de vie qui puissent favoriser leur épanouissement global, mais aussi et surtout reconnaître les droits des jeunes d'être à l'abri de toute famine et prendre des mesures indépendantes et collectives pour faciliter l'accès au crédit de lutte contre la pauvreté. Et enfin aussi, reconnaître les droits à chaque jeune de bénéficier de la sécurité sociale, y compris l'assurance sociale. Et à cet égard, pour citer, les États africains doivent prendre les mesures nécessaires en vue de réaliser pleinement ses droits conformément à leur législation nationale, notamment lorsque la sécurité nationale, donc lorsque la sécurité alimentaire, l'habillement, les logements et autres besoins fondamentaux sont compromis. Avec de telles procédures, les jeunes pourront toutefois se retrouver et maintenir de l'équilibre, parce que pour l'instant, les jeunes sont vraiment abandonnés, délaissés, ils ne savent quoi faire et pour le non-maintien de leur propre sécurité. À l'heure triste de ce soir, ils sont aussi victimes aujourd'hui, dont nous souhaitons un peu, disons, mes condoléances à les familles vraiment tristes, parce que là, nous voyons le berceau de l'humanité qui est en deuil. Oui, merci.
Merci beaucoup, Gervais. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est énoncé clairement dans cette charte africaine de la jeunesse. Il y a l'article 12, vous l'avez évoqué, qui met l'accent sur le fait de rendre les zones rurales plus attrayantes pour les jeunes en y améliorant l'accès aux services tels que les services culturels et éducatifs. On insiste même sur la formation des jeunes. On dit même qu'il faut octroyer des terrains aux organisations de la jeunesse pour des objectifs de développement socio-économique. Mais alors, pourquoi on ne peut pas y arriver? C'est la question que nous posons à Isaac. Merci beaucoup, Gervais, de Calémie. Alors, Isaac, vous êtes... c'est Junior. Junior, vous êtes en Bandaka. Junior, vous êtes en Bandaka. Alors, pourquoi il y a ces déficits? La charte le dit clairement, mais pourquoi à l'intérieur des États africains, on a ces déficits de programmes qui consacrent vraiment... qui se consacrent à la jeunesse pour permettre à la jeunesse de s'épanouir dans le pays plutôt qu'assister à ces drames... migratoire, Junior.
Par rapport à ce drame migratoire, je salue au préalable les mémoires de ceux qui nous ont quittés, parce qu'il n'est pas tout à fait inacceptable de voir quelqu'un prendre les risques de sa vie pour se retrouver ailleurs et trouver au juste d'un coup la mort. C'est quelque chose qui me choque au cœur, mais de toutes les façons, il faut savoir que préalablement que la jeunesse africaine est abandonnée de son propre esprit que soit et ne sait pas par quel autre effet il faut avouer son malheur. La problématique ne réside pas seulement au niveau de la politique intérieure des États africains, mais il faut savoir, il réside au niveau de la politique intérieure pour l'encadrement de la jeunesse africaine. Vous savez qu'au niveau des États africains, nous avons une grande équation qui nécessite plusieurs préalables. Nous n'avons pas de politique d'encadrement de la jeunesse qui s'adapte aux réalités socio-économiques de nos pays particuliers. C'est une question si nos gouvernements auront besoin de bien... Pour calmer ces flux migratoires, les gouvernements africains doivent tenir compte de ce préalable. En dépit de cela, M. J.R., il est inacceptable. La côte méditerranéenne, pour ceux qui ont appris la géopolitique, vous le comprenez très bien, il y a la cause, il faut se demander préalablement quelle est la cause, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause, quelle est la cause de ces flux migratoires. En Afrique, la guerre a pris le pas. La guerre à répétition. Si je prends le cas de la République démocratique du Congo, qui est mon pays. Les guerres en répétition à l'Est, par-ci, par-là, font à ce que la population puisse se déplacer et prendre même les risques de se retrouver ailleurs, donc dont les risques de gagner dans sa vie. Donc cet Eldorado est à la base, la guerre est à la base de cet Eldorado que je puisse dire. Ainsi donc, face à cette situation déplorable, il est, à mon avis, comme proposition, je dirais qu'au gouvernement, aux gouvernements africains, d'améliorer les conditions socio-économiques de leur population par un mécanisme d'appui au projet de développement qui s'adapte aux réalités des pays africains. Cela pourrait toutefois donner à la jeunesse la chance d'éviter l'immigration clandestine.
Voilà, merci beaucoup, Junior. Merci beaucoup, Junior, des Mandaka. Vous estimez que c'est une question de politique intérieure. S'il n'y a pas une politique claire en termes d'amélioration des conditions socio-économiques de la jeunesse, s'il n'y a pas de programme de développement à la base, ça sera difficile aujourd'hui de mettre un terme à ces mouvements de jeunes qui prennent des risques sur la Méditerranée pour se rendre en Europe. On retourne ici à Kinshasa. Isaac, vous êtes avec nous. Bonjour. Isaac, vous êtes avec nous. Bonjour, Isaac.
Oui, yes. Bonjour, je suis à Bukavu.
Ah, Isaac, vous êtes à Bukavu?
Oui, je suis à Bukavu.
Ok, et pour vous, comment vous analysez ces politiques intérieures des États africains en termes d'encadrement de la jeunesse?
Oui, cela a déjà été annoncé dans les termes que c'est en raison de la misère que tous ces gens ont pris et ils sont allés mourir dans la mer Méditerranée. Personnellement, je suis convaincu que sur le plan des potentialités, l'Occident n'est pas plus riche que l'Afrique. Mais tout ce qui complique les choses, c'est la mauvaise foi des chefs d'État africains. Les chefs d'État africains sur la scène internationale cherchent avant tout à conserver leur pouvoir. Je crois que vous êtes bien informés, mieux que moi d'ailleurs, que notre gouvernement a conclu des contrats de lobbying auprès des États-Unis afin de se maintenir davantage au pouvoir. Au lieu que ces fonds-là servent à construire des industries de transformation pour créer de l'emploi à la jeunesse, les gouvernements se préoccupent d'abord de son pouvoir. Et la plupart des chefs d'État africains se préoccupent d'abord de la longévité au pouvoir. Sinon, ce n'est pas le temps ou l'argent qui nous manque. Ici, chez nous, à RDC, les régimes beaucoup doivent être en 2 ans. Mais plus le régime a duré, plus le chômage a été accru. Et il y a des millions et des millions de jeunes qui chôment depuis des années, suite à la mauvaise gouvernance. Le régime Kabila vient de faire 16 ans. Et manifestement, il ne voudrait pas cesser. Tout cela, c'est à cause de la mauvaise gouvernance.
Merci beaucoup, Isaac. Vous êtes à Bukavu. Pour vous, le problème avec beaucoup de pays africains, c'est plus la lutte pour la conservation du pouvoir et la longévité du pouvoir que des programmes clairs. Il n'y a pas des créations d'industries de transformation qui puissent donner de l'emploi aux jeunes. On se préoccupe plus pour conserver le pouvoir que pour exercer le pouvoir dans la gouvernance qui permettra à ce que les jeunes puissent avoir de l'emploi. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher le débouché à l'extérieur, la survie en Europe, et s'exposent ainsi à ces drames sur la mer Méditerranée. Merci beaucoup, Isaac de Bukavu, ingénieur Valérie. Vous êtes avec nous de Kindu. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à toute l'équipe.
Alors,
je viens d'interrompre mon assistante pour discuter ce qui se passe ici chez nous pour l'intérêt de notre chère émission.
Merci.
Et vous avez une question?
Oui, je disais tout à l'heure que quand on regarde aujourd'hui ces drames qui se déroulent sur la mer, les débats se déroulent plus de l'autre côté, hein. C'est en Europe où il y a les débats plus sur quelles sont des solutions par rapport à ces flux migratoires. Mais on ne voit pas l'Union africaine, les pays africains se mobiliser, se réunir pour voir de quelle manière on peut arrêter ces mouvements et surtout ces vies qui sont en train de se perdre ainsi. Alors comment les pays africains peuvent-ils arriver aujourd'hui à améliorer leur gouvernance en termes d'occupation des jeunes pour quand même mettre fin à ces drames qui se déroulent sur la Méditerranée?
Merci beaucoup Pierrot. Vous comprenez qu'à travers votre question... à travers votre question, vous comprendrez pourquoi j'ai trop peu de confiance par rapport aux organisations africaines, en commençant par les africaines. Donc, vous comprenez que c'est malheureux que les autres puissent s'occuper de nous. En fait, même l'Europe, là, si l'Europe doit s'occuper de nous, c'est une façon d'être correcte avec elle-même. Parce que les dictatures que nous avons connues avec des indépendances ici en Afrique, c'était des dictatures bien organisées par l'Europe. L'Europe est consciente, l'Europe et les États-Unis sont tous conscients qu'ils ont déstabilisé l'Afrique, ils ont paupérisé et appauvri le peuple africain. Aujourd'hui, cette même pauvreté commence à créer de l'insécurité chez eux. Voilà pourquoi ils y reviennent. Donc c'est une façon d'être correct avec eux-mêmes. Vous savez, Pierrot, je voudrais aborder ces problèmes sous trois axes. Un axe psychologique, notre pédagogique et enfin sociopolitique. Sur le plan psychologique, c'est un signe d'une prise de conscience d'absence de sentiments affectifs. La jeunesse ne se sent pas aimée parce que pour que quelqu'un se développe dans la vie, son propre effort vient après. Mais c'est d'abord l'effort de la communauté, l'effort de ceux qui sont plus avancés. Il faudrait que ceux qui sont plus avancés puissent introduire les autres dans la société. Nous pouvons nous vanter aujourd'hui, je suis licencié, je suis ingénieur, je suis docteur, mais reconnaissons que si ces papas-là, ces mamans-là, qui n'avaient pas peut-être fait de grandes études, n'avaient pas vendu leur panne pour que les enfants puissent étudier, aujourd'hui, ceux qui font du bruit ne seront pas ce qu'ils sont. Alors, la jeunesse a pris conscience qu'elle n'est pas aimée. C'est cette prise de conscience qui crée la frustration, le stress. Et surtout lorsqu'elle raisonne par analogie, en voyant que ses aînés, il y a 10, 15, 20 ans, ont terminé les études, ne travaillent pas, et voient tout cela, ça qu'est la psychose, et ils se disent qu'ils acceptent même ce risque. Là, maintenant, ils vont tomber sur l'adage qui dit qu'ils ne risquent de rien à rien. Je voudrais partager avec les auditeurs cette expérience. Lorsque j'étais en formation de l'eau à Liège, une fois, j'étais parti voir la famille à Bruxelles. Au retour, je descends la gare de Guillemin à Liège. Je rencontre une Congolaise. On commence à parler un peu, tout ça. Je lui dis, non, moi, je vais rentrer. Je suis venu seulement pour la formation. J'ai vu la Congolaise, quand elle me parlait du Congo, fondre en larmes. Elle dit, papa, bobo misambo kawana. Ils sont trop comme on n'a pas si namali d'aboye. Prête à pleurer. C'est vous dire qu'elle n'est pas seule. Tous ceux qui sont en Europe, par-ci, par-là, en Afrique du Sud, qui sont humiliés tous les jours, le jour où ce pays va se remettre sur les rails, vous verrez un retour massif des Congolais. Ce n'est pas, et ce qui est vrai pour les Congolais, l'est aussi pour les Africains. Alors, maintenant j'ai terminé avec l'aspect psychologique, entrons dans la pédagogie. La pédagogie, vous savez, quand on éduque, quand on forme, c'est par rapport à l'avenir. Former quelqu'un, c'est le préparer afin de l'insérer à la société à laquelle il vivra plus tard. Par exemple, les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui doivent être éduqués, formés en fonction de l'année 2030-2050. Si quelqu'un éduque son enfant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais l'enfant sera déphasé en 2050. Alors, il n'y a pas eu une politique jusque-là au niveau de l'Afrique qui prévoit la vie de la jeunesse sous forme de projection. Malgré les richesses que nous avons, comment convertir toutes ces richesses en quelque chose de palpable? L'Union africaine n'a même pas de parlement. Il n'y a pas de parlement africain, on en parle, mais tout ça c'est sur papier. Alors, ce sont les mêmes personnes qui prennent des décisions en amont et qui les exécutent pratiquement. C'est un manque de politique. Je suis maintenant à la dimension sociopolitique. Il y a absence de politique. Il faudrait que les ressources, comment voulez-vous que c'est l'Afrique qui a plus de richesses que l'Europe? Mais aujourd'hui, même l'Union africaine est supportée à 98% par l'Europe. Donc, ça signifie que quelque part, les Africains, nous nous contentons seulement de l'argent, mais nous ne voyons pas d'où vient cet argent et comment nous pouvons alors nous en procurer. Absence de la justice distributive. Pour que l'Afrique se développe, l'Afrique doit aller, on ne doit pas seulement parler des élections. Les élections doivent d'abord être crédibles, c'est-à-dire pas de tricherie. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un état de droit, qu'on respecte l'ensemble des droits, qu'il y ait une bonne gouvernance au sein de laquelle nous allons retrouver aussi la justice distributive, que chacun obtienne ce qui lui revient des droits. En Afrique, il y a des salaires qui sont des forfaits, des salaires imposés. Même dans notre pays, quand on dit qu'un fonctionnaire va bientôt toucher 100 dollars, est-ce que 100 dollars c'est un salaire? Ce sont des forfaits qu'on impose aux gens. Quand on dit un salaire, on doit quand même y avoir une ventilation. Ou bien les salaires, les brutes, les logements, les transports, les alphas, les glos, ainsi de suite. Et au départ, il doit y avoir d'abord ce qu'on appelle en économie un budget type. Un budget qui reprend le minimum de vie que quelqu'un peut mener. C'est sur base du budget type qu'on va élaborer le SMIC, que même si quelqu'un vient en formation ici ou vient en voyage, on peut déjà dire, comme vous allez au Congo, voilà l'indice de vie chère et comme ceci, comme cela, il faudrait lui payer au minimum autant par jour. Par exemple, nous, quand nous allons dans des formations, j'ai déjà été en formation en Asie, en Europe, mais vous trouvez que ce qu'on vous donne, même si ça ne va pas vous enrichir, mais ça vous permet de vivre du 1er au 30 pendant votre séjour. Mais ce n'est pas que c'est calculé. économie est une science qui se sert aussi de la mathématique, mais ici, en Afrique, ce sont des forfaits. Les dirigeants ne comprennent pas que nous les respectons parce que c'est nous qui les avons établis. D'après eux, nous devons les respecter parce qu'eux ont obtenu le privilège d'être au-dessus, alors que c'est nous qui les avons établis. Ils sont plus là pour les privilèges que pour les devoirs. C'est ça ce qui tue l'Afrique. Je ne saurais pas monopoliser la parole.
Merci.
Je m'arrête par là et je vous remercie.
Merci beaucoup. Ingénieur Valérie, vous avez insisté sur ces trois axes majeurs, ces trois éléments clés, mais aussi le fait qu'on vive avec des salaires forfaitaires. Vous l'avez dit, les salaires sont fixés par forfait. On n'a pas un calcul fixe pour savoir quel est le vrai besoin, le besoin réel de la population, et comme ça, quelqu'un pourra toucher un salaire qui lui permette de résoudre ses besoins. Franck, Dieu merci, et Maître Adrien, vous gardez la ligne. On va vous retrouver tout à l'heure, mais je vois le débat qui s'est déroulé également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Oukairi Matembera, qui est à Kalemi, dit ceci: tout en déplorant la perte en vie de mes frères africains, je pense que l'Africain devrait avoir l'amour de sa terre natale. Les mieux placés en Afrique n'y gardent pas leurs capitaux. Les mal placés ne veulent pas y vivre. Et ceux qui n'ont pas le moyen de quitter y restent en rejetant leur culture et copient l'Europe, et certains changent même la couleur de leur peau. Comme solution, les patriotes africains, surtout ceux de postes et de décisions, doivent s'engager dans la création d'une Afrique qui sera plus économique que politique, plus pratique que théorique. Alain Bolodjoua, sur la page Facebook, estime que les raisons militant en faveur de ces migrations peuvent être soutenables. Il faudrait cependant reconnaître que dans la plupart des cas, ces migrants ne sont informés des risques qu'ils courent. Ceux qui sont censés leur faciliter la tâche d'entrer en Europe les dupent en les mettant devant un fait accompli. Quant à la gouvernance, il faudrait reconnaître que la plupart de ces personnes sont d'origine des pays du Sud qui sont caractérisés par une pauvreté déshumanisante. 09 97 06 49 69 c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais vous pouvez continuer à déposer vos commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Franck, merci d'être avec nous. Vous le disiez tout à l'heure sur la page Facebook, beaucoup de raisons peuvent expliquer ces flux migratoires et surtout ces risques, ces prises de risques sur la mer Méditerranée. Mais il faudrait quand même en un certain moment qu'il y ait des débats au niveau, que ce soit au niveau des organisations sous-régionales, que ce soit au niveau de l'Union africaine, dans la globalité, pour repenser ces politiques intérieures qui puissent permettre à ce qu'on puisse arrêter et encadrer les jeunes pour éviter ces drames et ces prises de risques. Franck, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés, bonjour à ceux qui vont s'exprimer après moi. Merci pour la parole. Je vais tenter de situer ma pensée, ma petite contribution sur deux angles. Au premier, je veux rappeler que tous les hommes, quelle que soit leur appartenance linguistique, situationnelle ou quoi, ils sont à la quête du bien-être. Et comme ils sont à la quête du bien-être, ils cherchent aussi à réunir les procédures et les paramètres pour des voies de matérialisation de leur bien-être. Puis de l'autre côté, je veux aussi rappeler que toute personne, tout homme, est comme un poisson dans l'eau. Donc, le poisson ne peut vivre que là où il y a un peu d'eau. Et par rapport à la condition de vie, il faut d'abord s'assurer que l'eau dans laquelle on veut vivre est de très bonne qualité. Par rapport à ce que je viens d'entendre, je crois qu'il faut brièvement rappeler que les hommes dans leur ensemble, ils sont à la quête du bien-être. Ainsi, ils se préparent à étudier, à être scolarisé, à être éduqué, pour qu'un certain âge de leur vie, qu'ils se prennent en charge. Mais du moment où ils se rendent compte qu'arriver à cet âge de la prise en charge, ils n'arrivent pas à s'assumer, c'est alors qu'un certain questionnement commence. On se pose des questions. Qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? J'aimerais avoir une famille. Est-ce que je saurais encadrer mes enfants? C'est à partir de ce genre de questionnement
que les hommes cherchent maintenant à aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que si je vais là-bas, j'aurai accès à quel privilège? Et je suis personnellement touché de voir un peu ce qui se passe, pas seulement chez nous au Congo, mais dans la plupart de nos pays africains. Et c'est, en tout cas, garder silence, ça serait pour moi de la traîtrise, parce qu'on ne peut pas le concevoir. Parce que les gens meurent, mais il n'y a pas de solution. Et ce qu'il faut ajouter ici, les gens, ils sont à la quête du bien-être, et ces flux migratoires, c'est l'émanation d'une série de situations existentielles sans perspective. Donc, quelqu'un qui se rend compte que j'ai déjà étudié ici, je n'ai pas d'emploi, alors maintenant, il faut chercher à immigrer vers. Et puis, un autre aspect, ça m'a toujours fait mal, monsieur le journaliste, monsieur Pierrot, je peux vous dire, plaçant ma main dans le cœur, que l'image que beaucoup de tiers-mondistes véhiculent sur l'Europe, telle que moi je connais l'Europe, ne reflète pas toujours 50% de cela. Qu'est-ce que moi personnellement j'ai constaté? Les gens ne cherchent à véhiculer qu'une image d'une Europe facile. Si tu arrives en Europe, tu as telle opportunité, tu as telle faveur, tu as tel avantage. Ça peut être vrai en partie. Mais pour avoir accès à toutes ces opportunités, pour avoir accès à tous ces avantages, il faut aussi remplir un certain nombre de préalables. Mais beaucoup de gens ne veulent pas entendre qu'on leur parle de l'ambiguïté de la vie en Europe, qu'en Europe, il y a aussi des gens qui souffrent, en Europe, il y a aussi des gens qui n'ont pas d'emploi. En Europe, si vous ne savez pas ce que vous voulez aller faire là-bas, ça ne sert même pas. Mais par rapport maintenant à la question qui doit être répondue, quelle est la politique d'encadrement de nos pays africains pour l'avenir des jeunes? Parce qu'on peut dire, il y a d'abord une politique là. Moi, personnellement, je suis très, très sceptique par rapport à cette question, parce que c'est depuis les années des indépendances qu'on est en train de crier, mais il n'y a pas de réponse. Et la plupart de nos dirigeants, la plupart de ces dirigeants qui sont là-bas, il y en a qui ont étudié ici. Il y en a qui voient comment ça se passe ici, mais il suffit qu'il rentre chez lui, il oublie. Et quelque part, ça fait mal. Donc, moi, je trouve que les gens, ils ont des mauvaises informations. Ils sont mal informés sur les réalités de vie en Europe. Et les quelques gens qui cherchent à véhiculer l'image de l'Europe, c'est l'image de la mode, l'image de la facilité, l'image d'une certaine complaisance. Mais si vous arrivez sur place et que vous cherchez à donner la vraie image de l'Europe, les gens ne vous croient pas. Pour ne pas trop parler de moi-même, moi qui vous parle, quand je viens au Congo, il y a des gens qui me contestent, me disant Lingala, mais tu n'as pas de grippe, tu n'as pas ceci. Donc, moi, parfois, ça me fait mal. Et parfois, il y a des gens qui ont des moyens, il a sa maison, il est mieux installé, mais quand il te rencontre, il est un peu complexé. Et quand tu lui dis que, mon cher, contente-toi de ce que tu as, parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il te dit, ah mon cher, si quand on a qu'un décal à Kuna, mieux sur le Bawana, là qu'il est revivre en Kuna. Il faut te foutre en Nyongoyamisu. Moi, je crois que nous devons arriver à décomplexer d'abord la formation dans nos milieux éducatifs, arriver à enseigner du très bon civisme permettant à chaque citoyen, pas seulement congolais, à chaque citoyen de ce monde de s'imprégner d'abord des réalités vitales de sa vie. Parce que la vraie vie, on peut l'amener d'abord que chez soi. Ça, je le dis, mais dans mon cœur, je suis en Europe depuis 20 ans. Je peux rester ici, mais j'ai toujours dit, les gens qui me connaissent, je devrais être enterré au Congo. Même si je mourrais ici, on doit me ramener au Congo. Donc, je suis ici pour des raisons claires. Je travaille, mais je suis congolais. Mais quelque part, il faut quand même qu'il y ait une politique claire. Mais est-ce que nous avons déjà cette génération de politiciens qui entrevoient cette politique d'encadrement des jeunes? C'est la question. Et moi, je ne pense pas qu'il faut toujours retourner la pierre du côté des Occidentaux. Nous sommes déjà indépendants depuis les années 60. Moi, personnellement, je vis avec les Européens. Il y en a qui sont objectifs. L'homme, il est toujours à la quête du bien-être. Si l'Africain pense que son bien-être, c'est pour venir chercher en Europe, il y a aussi des Européens qui trouvent que pour maintenir cet état des arts, ils doivent aller en Afrique et prendre ce dont ils ont besoin pour venir les transformer ici. Et je crois qu'ici, c'est d'abord un problème d'hommes, un problème d'éducation, un problème de conception, un problème de conviction et un problème de prévision politique. Nous mettons quelle forme de politique sociale pour nos jeunes et quels sont les moyens qu'on met en place pour leur encadrement.
Merci.
Par cela, monsieur le journaliste, nous irons de débat en débat, il n'y aura pas de solution.
Merci beaucoup, monsieur Franck, pour toutes ces précisions. Il y a d'abord la question même de complexe qui se pose, des informations. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la prise de conscience au niveau de l'Africain lui-même, de responsables politiques, la politique claire définie pour des générations. Ingénieur Valérie le disait, est-ce que nous avons au niveau de nos gouvernements aujourd'hui une politique étalée sur 20 ans, sur 40 ans? On veut avoir quel type de jeunesse, quel type d'éducation, à quels besoins ils vont répondre dans les années à venir? Quand tout cela manque, ça sera difficile de pouvoir le retenir, quand bien même on ne peut pas interdire à une personne de pouvoir chercher le mieux être ailleurs, comme vous l'avez dit. Mais dans quelles conditions alors c'est mieux être et chercher? Merci beaucoup de toutes ces précisions. On retourne au pays. Et cette fois-ci, à Kisangani, avec vous, Dieu merci. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour à la radio, Kati. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, c'est regrettable pour la jeunesse africaine. Moi, je pense qu'il n'y a pas une politique claire pour la jeunesse, en commençant par l'Union africaine qui regroupe les pays africains. À ce qui nous concerne, la RDC, j'appelle les jeunes à faire preuve de sa majorité dans les institutions du pays, afin de soulager les jeunes. Je m'inscris donc à faux à ceux qui disent que la jeunesse est apolitique. Et pour terminer, je conseille aux jeunes que le bonheur n'est pas seulement d'aller en Europe, donc même ici au pays, et on peut trouver toujours le bonheur. C'est un peu ça ma contribution.
Merci beaucoup, Dieu. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, parce que même au niveau de la charte africaine de la jeunesse, on prévoit que les pays puissent aider les jeunes à accéder dans les postes de responsabilité, qu'ils soient impliqués dans les décisions politiques. Et vous dites que la jeunesse doit majoritairement être impliquée pour que demain, elle ait voix au chapitre. Hein, et c'est comme ça qu'elle peut aussi penser à s'occuper d'elle-même. Merci beaucoup. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Est-ce qu'il peut arriver aujourd'hui à avoir cette jeunesse engagée politiquement, qui puisse de même participer à la prise des décisions et à l'élaboration des différentes politiques? Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et Lamenji. Bonjour à tous les amis auditeurs. Je pense que tout est parti d'abord de la charte africaine sur la jeunesse. Vous allez vous rendre compte que cette charte a posé des principes. Maintenant, nos dirigeants actuels ont du mal à mettre en application donc les dispositions de cette charte. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'attaquer à la jeunesse, je pense que c'est injuste. Il faut s'attaquer à nos dirigeants qui ne savent pas vraiment promouvoir et mettre en application les dispositions de cette cette charte africaine sur la jeunesse. Aujourd'hui, vous verrez que cette immigration est en quelque sorte supportée et encouragée par nos dirigeants actuels. Vous n'avez qu'à prendre cet exemple. Lorsqu'il y a un concours quelque part, lorsqu'on veut embaucher quelqu'un, on estime que non, c'est lui qui vient, un patriote qui vient d'ailleurs, est mieux loti que celui qui est sur place au pays. Vous n'avez qu'à voir, lorsque vous avez tous le même diplôme, même sur le plan politique, celui qui vient ailleurs est privilégié par rapport à celui qui est dans le pays. C'est comme ça que tout le monde, à partir de ce message-là, la jeunesse estime qu'il faut aller ailleurs, en Occident, pour tenter maintenant notre chance, afin que nous soyons aussi privilégiés, comme nos dirigeants sont en train de faire aujourd'hui. Donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec l'ingénieur Valérie lorsqu'il estime qu'il faut d'abord que nos dirigeants africains puissent d'abord définir leur politique sur la jeunesse pendant une durée vraiment longue. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est utilisée dans des histoires sales. Hein, lorsqu'il faut revendiquer quelque chose, lorsque tu es mécontent, c'est là qu'on appelle la jeunesse, on lui donne un petit t-shirt, on lui donne un petit 2000 francs, on lui dit, bon, tu peux manifester à mon nom. Et là, la jeunesse est en train de servir ces gens-là. Lorsqu'ils sont au pouvoir, la jeunesse est oubliée. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que si nous continuons avec nos dirigeants actuels, vraiment, l'histoire de la jeunesse risque de s'effacer sur la cartographie de l'Afrique. C'est comme ça que j'ai toujours rendu hommage vraiment mérité à l'ex-président libyen Muammar Kadhafi, parce que lui, lorsque nous voyons ce qu'était sa politique sur la jeunesse, il ne tolérait pas ce genre d'histoire. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez la plupart des nationalités, des naufrages, ce sont nos frères donc du nord de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que si chez eux là-bas, la jeunesse a un petit espoir, parce que elle est quand même comptée sur les bouts des doigts. Mais si elles parviennent maintenant à chercher le mieux vivre ailleurs, je me pose la question sur la jeunesse congolaise. Parce que lorsque vous prenez même notre belle ville de Kananga, vous allez vous rendre compte que c'est une jeunesse qui est totalement abandonnée et délaissée même. Il n'y a pas d'initiatives. Et les jeunes qui se donnent corps et âme pour étudier, ils ont leur diplôme. Et au finish, ils ont quoi? Ils font l'objet d'une certaine discrimination qui ne dit pas son nom. Hein? Au jour d'aujourd'hui, les enfants des oncles, des tantes, c'est comme qui dirait les enfants d'abord. Et les autres jeunes sont en train de tourner les pouces. C'est comme ça que les gens se rendent compte que non. En Europe, lorsque vous allez aux États-Unis, lorsque vous allez, c'est la compétence qui prime d'abord. Donc avec ma compétence, je suis à même de rivaliser avec les autres. Mais chez nous ici, lorsque vous avez votre compétence, elle ne tient pas compte. Elle est mise au tiroir. On appelle d'abord ceux-là qui ont une primauté. Pourquoi ? Parce que son père fut tel dans ce pays, son frère fut tel, et ce sont ceux-là qui sont privilégiés. Et aussi, lorsque vous allez même dans le critère de recrutement, on oppose certaines conditions. Bon, un jeune qui vient de l'université, par exemple, lorsque vous lui demandez une expérience de 5 ans, vous voulez que celui-là fasse quoi ? Voilà comment est-ce qu'on est en train d'encourager, donc dans une sorte de mesure, des immigrations, sans toutefois les savoir. Donc, moi, je pense que la solution, Pierrot, dans tout ce que nous sommes en train de développer, il faut que nos dirigeants africains se remettent d'abord en cause. Qu'ils se posent d'abord des questions, pourquoi il y a des immigrations, donc l'afflux des Africains qui se dirigent en Europe, donc aux États-Unis d'Amérique, au Canada, pourquoi? Donc c'est à eux de trouver des réponses. Sinon, ils sont en train de me dire, c'est d'ailleurs honteux lorsque nous apprenons sur donc les voies des ondes, que non, il y a autant de morts, il y a autant de disparus. Et les Africains, donc les dirigeants africains, ils sont là calmes, ils trouvent que non, il faut applaudir tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est malheureux tout simplement, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Adrien. D'ailleurs, vous l'avez relevé, le fait que quelqu'un qui a terminé les études en Europe ou aux États-Unis, disons à l'extérieur du pays, soit privilégié dans l'embauche ici au pays, cela encourage les autres à pouvoir aller à l'extérieur, parce qu'on estime quelqu'un qui vient de la diaspora peut être assez privilégié. Mais à l'intérieur, tous ces problèmes de mécontentement, de clientélisme, de tribalisme, des trafics d'influence font que beaucoup de personnes n'ont pas de débouchés et ils peuvent prendre ces risques pour aller à l'extérieur. Et pour vous, il n'y a que la prise de conscience des dirigeants africains sur les politiques intérieures qui puissent apporter une solution à cette situation. Merci beaucoup. On reste dans la ville de Kananga avec vous, Kazadi. Merci d'être avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Kapi et bonjour tous les invités.
On vous écoute.
Je présente d'abord mes sincères condoléances aux familles des victimes. Et mon intervention, c'est juste pour contredire à ces intervenants-là qui disent tous les problèmes sont au niveau des dirigeants africains. Bien sûr qu'il n'y a pas, on n'engage pas des jeunes, qu'il n'y a pas de travail, et il y a plus de 100 000 licenciés médecins qui sont lancés au marché et qu'il n'y a pas de travail. Mais le problème n'est pas seulement au niveau du gouvernement africain. C'est un problème de tout Africain. J'ai interpellé à ces jeunes-là qui veulent toujours s'infiltrer en Europe pour chercher des boulots. Ils doivent savoir où est-ce que l'Europe a commencé. C'est par un effort, un grand effort que l'Europe a fourni pour être ce qu'il est là. Et même ce sont des richesses africaines que l'Europe a utilisées pour être ce qu'il est là aujourd'hui. Maintenant, nous, en tant que jeunes africains, nous devons nous réunir, nous mettre ensemble et lutter. S'il y a des mauvais dirigeants, lutter contre ces mauvais dirigeants-là. S'il y a à développer notre pays, mettons-nous ensemble pour diriger ce pays.
Merci.
Merci beaucoup, Isaac. Vous estimez que c'est d'abord la responsabilité de la jeunesse. S'il faut dégager des mauvais dirigeants, vous les dégagez. S'il faut développer, vous développez. C'est ça, c'est une prise de conscience des Africains, des jeunes Africains eux-mêmes. Merci beaucoup, Kazadi, de nous avoir appelé de Kananga. Ingénieur René Mapicho dit ceci est le fruit d'innombrables crises que subissent les gouvernés africains, continent potentiellement riche, mais les gouvernants se servent de la mauvaise politique. C'est pourquoi certains cherchent même à atteindre l'Europe à la recherche du mieux-être. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'amélioration de la gouvernance sur les continents, ça sera plus difficile de pouvoir retenir ces jeunes. Toujours sur la page Facebook, Gabriel Kamboulou dit ceci. D'abord, les condoléances attristées aux familles des victimes. Mais ensuite, c'est une question du social, c'est-à-dire la faute, nous la donnons aux gouvernants africains qui sont incapables de garantir une sécurité sociale à leur population. Et enfin, le manque d'encadrement de la jeunesse, alors quelle Afrique a une meilleure représentante est aussi à mettre à l'épreuve. Crispin Kabuya est à Kananga sur la page Facebook. Si dans la famille les parents n'arrivent pas à supporter les enfants, ces derniers vont tenter de se prendre en charge. Ils peuvent quitter la maison juste à la recherche de leurs subventions. De façon similaire, c'est dans un pays où les conditions de vie sont précaires. On a du mal à y rester. Voilà les conséquences aujourd'hui que nos dirigeants africains prennent des mesures par rapport à cette situation. Et Georges, vous êtes à Manono. Merci de nous avoir appelé pour intervenir dans cette émission. Bonjour Georges.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Oui, ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, Monsieur Pierrot, il n'y a pas tellement la politique d'encadrement de la jeunesse au niveau africain. Monsieur Pierrot, il faut que le gouvernement africain puisse d'abord sensibiliser la jeunesse africaine. Surtout, Monsieur Pierrot, dès les bas âges, ici en Afrique, on a l'idée en tête qu'une meilleure vie se trouve seulement à l'Europe. Monsieur Pierrot, j'étais étonné un jour, oui, quand on suivait un match de football, un enfant a vu les images de l'Europe et il a giré devant son parent pour dire que papa, je ferai le tout pour aller en Europe. Avec cette idée-là, Monsieur Pierrot, les Africains souffrent et ils se décident pour aller. Donc, c'est une maladie qu'il faut nécessairement guérir. Pour ce qui est de recommandations, Monsieur Pierrot, les gouvernements africains doivent créer surtout les emplois aux jeunes, surtout pour éviter. Surtout avec ce qu'a dit le prédécesseur Monsieur Adrien à partir de Kananga, il a dit quelque chose de très important lorsqu'il a parlé des emplois en Afrique où on trouve, par exemple, on demande un étudiant qui vient de terminer, on demande 5 ans d'expérience avec de telles conditions, ça ne permet pas aux jeunes de trouver facilement les emplois, mais aussi il y a la sélection familiale. Vous trouvez des emplois en Afrique, on le trouve les gens d'une même famille, alors que nous avons beaucoup de diplômés qui cherchent à être engagés. Et pour terminer, surtout, il faut améliorer la rémunération en Afrique, surtout, Monsieur Pierrot. Parce qu'on a constaté en Afrique, un enseignant qui touche, je pense, 100 dollars, alors qu'en Europe, c'est les salaires qu'on trouve même peut-être des sentinelles qui touchent de tels salaires. C'est tellement très déplorable pour la jeunesse africaine. Mais aussi, il faut pacifier l'Afrique et il ne faut pas qu'il y ait de guerre en Afrique. Voilà tout, Monsieur Pierrot. Merci.
Merci beaucoup, Georges. La question de l'emploi, je le disais tout à l'heure, même Gervais Décalemi l'a évoqué dans la charte africaine de l'ANES. L'article 15 insiste beaucoup sur ce que tout jeune africain a droit à un emploi rémunérateur et même des recommandations du genre les États partis à la présente charge devront prendre toutes les mesures nécessaires, appropriées en vue de la réalisation du projet de jeunes à l'emploi rémunérateur et doivent notamment veiller à l'accès équitable à l'emploi, à la rémunération équitable et garantir la protection contre la discrimination sans distinction aucune de l'ethnie, de la race, du genre, du handicap, de la religion, de la culture, de l'opinion politique, de la catégorie sociale ou économique d'origine. Et les politiques macroéconomiques devaient être axées sur la question de la création des emplois pour les jeunes. Tous les pays africains ont pu ratifier, ils ont signé, Mais de quelle manière chaque pays met en œuvre ses recommandations pour s'occuper de la jeunesse et surtout en ce qui concerne la création de l'emploi. Et c'est là exactement où se pose le problème. Merci beaucoup, Georges. Kams, vous êtes à Kananga. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Kams.
Oui, merci, monsieur le journaliste. La question de l'emploi, c'est une question qui se pose vraiment sur tout le continent de l'Afrique. En Afrique, il y a un problème. Nos dirigeants qui sont en Afrique privilégient surtout leur poche. Donc, ils sont là, ils ont des jeunes. Les jeunes sont là en train de naître presque chaque jour ici. Mais ils ne se préoccupent plus aux jeunes. La jeunesse est devenue, vous savez, tant comme leur instrument, on ne sait quoi dire. Donc, ils sont là pour encadrer au moins la jeunesse. Ils ne veulent pas, ils visent seulement sur ses intérêts. Et puis, ils ont, soi-disant, leurs encadreurs, mais ils sont là seulement pour mener leurs actions. Et leurs actions là sont... Donc, ça ne profite rien à la population.
Et d'ailleurs, Kams, vous avez raison tout à l'heure, on était avec maître Adrien à Kananga qui estimait que la plupart de responsables titulent les jeunes que tout simplement des revendications. On le voit dans les questions politiques, on recourt à la jeunesse juste pour ça. Mais quand il s'agit de politiques réelles, quand on accède au pouvoir, et alors la jeunesse est reléguée. On ne voit pas comment on s'en occupe. Et vous estimez que c'est cette culture de l'intérêt personnel qui fait aujourd'hui qu'on ne parvient pas à avoir des politiques claires sur l'encadrement et le développement de la jeunesse. Merci. On retourne à Kisangani. René, vous êtes avec nous. Bonjour René.
Oui, bonjour, monsieur.
Voilà. Et vous avez suivi cette inquiétude de Kams qui dit les politiques plus s'occupent des intérêts personnels que de programmes réels pour l'encadrement de la jeunesse. Mais alors, comment on peut arriver aujourd'hui à intégrer cette donne de la jeunesse au niveau des pays africains, par exemple, et dans d'autres pays particulièrement, René?
Bon, je prends l'exemple pour nous, les nouveaux licenciés, par exemple. Vous voyez, dans un pays comme le nôtre, la RDC, Il y a parfois l'opportunité, on lance l'offre d'emploi, on lance l'offre, oui, on répond à l'offre, mais il y a encore la condition qui nous exige que non, on doit avoir 5 ans d'expérience. Vous voyez, dans des pays comme les nôtres. Mais par ailleurs, dans les pays étrangers, comme en Afrique, en Europe, vous voyez, lorsqu'un licencié termine ses études, il y a une mesure d'accompagnement. À suivre, à passer par des formations. Tout ça, dans notre pays, c'est vraiment un cas rare. C'est pourquoi le monsieur qui vient de me précéder, je donne raison à ce monsieur-là. Vraiment, ici, ce n'est que les autorités qui veulent assez qu'ils puissent avoir des avantages au détriment de la population. Tellement s'il y a des activités, des revendications, ils s'occupent à... Les récents, c'est les jeunes gens à fait de se manifester. Vraiment, mesure d'accompagnement, il y a zéro. Sur ces plans-là, c'est un seul exemple que j'ai eu depuis que je suis en RDC.
Merci beaucoup, René. D'ailleurs, vous avez souhaité et estimé que quand on demande aux jeunes aujourd'hui l'expérience professionnelle alors qu'ils viennent à peine de terminer les études, dès lors que nous sommes dans l'absence de mesures d'accompagnement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de stages professionnels qui soient organisés pour accompagner ces jeunes à pouvoir décrocher, trouver un emploi demain. Et d'ailleurs, parce que nous nous sommes basés sur la charte africaine de la jeunesse, qui prévoit d'ailleurs que les gouvernants africains devraient promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes en insérant dans le programme scolaire la formation à l'entrepreneuriat, la formation aux techniques de gestion d'affaires, mettant à leur disposition des opportunités de crédit et des parrainages, ainsi que des meilleures informations sur les opportunités de marché. Voilà des choses qui voudraient en principe être prises en considération pour accompagner ces jeunes et éviter de pouvoir les abandonner à ces genres de mouvements migratoires. On va terminer avec vous, Alain. Merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, Ismaël Mopoi, qui est avec nous sur la page Facebook, a évoqué tout à l'heure que le problème aujourd'hui, c'est la contradiction entre ce que l'Europe pensait des pays africains, comme le disait ingénieur Valérie. On a soutenu des régimes qui n'ont pas pu donner des débouchés à leur pays. Et aujourd'hui, l'Europe subit les conséquences des régimes. Ces régimes, l'Europe avait soutenu des régimes purement démocratiques il y a moyen, qu'il y aurait eu amélioration de la gouvernance. Et comme ça, elle ne pouvait plus subir ces sauts migratoires. On va terminer avec vous, Alain. Merci d'être avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Ouais, moi j'estime que nous devons faire la part des choses. Il y a l'Europe en tant que communauté, mais aussi les faiseurs d'opinion ou les leaders de l'Europe. Si l'Europe empathie aujourd'hui, mais le politicien européen s'y retrouve. Malheureusement, la classe politique africaine n'a pas encore compris les vrais enjeux. Ils viennent piller chez nous. Et malheureusement, notre classe politique préfère aller garder l'argent qui pille chez nous, qui détourne chez nous, en Europe. Et lorsqu'on les saisit, c'est les Européens qui en profitent. Mmh. Nous braguons nos ressources et nous n'avons pas la capacité de créer de conditions. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on a tué l'âme congolaise. On a tué l'âme africaine par le simple fait qu'il y a une sorte de gaspillage des ressources. C'est ce qui justifie en partie ces déplacements des Africains vers l'Europe. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, la classe politique n'arrive pas à transcender ses faiblesses, n'arrive pas à imposer une marque, une nouvelle marque, pour créer de l'espoir dans la jeunesse. Parce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde a tendance d'aller vers l'Europe. Et ce qui est surprenant, même nos autorités ont tendance à aller vers l'Europe. Ils vont garder leurs ressources là-bas, ils gardent leurs familles là-bas, mais apparemment, ils n'ont plus d'espoir, eux aussi. Et pourtant, ce qui doit maintenir les Africains en Afrique, ça doit rester la vision qui est portée par les dirigeants. Mais malheureusement, on ne sent pas cette vision. On sait qu'il y a une sorte de rupture, une sorte de démission. Aujourd'hui, il y a nos frères qui meurent, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à mettre tous les Africains en position de payer leur croissance économique individuelle. Et pourtant, nous avons des ressources. Nous avons tous les moyens nécessaires pour créer ce dynamisme-là qui manque en Afrique. Mais lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer nos ressources, lorsqu'il y a le gaspillage dans lequel nous constatons, nous vivons aujourd'hui, naturellement, toute personne a tendance à aller vers l'étranger. Si on prend le DV loterie, tout le monde joue, même les dirigeants jouent au DV loterie. C'est grave, c'est grave. C'est ce qui justifie ce flux-là migratoire, c'est ce qui justifie ce départ-là des jeunes. Et il y a faute de cerveau, et cela ne va pas.
Et d'ailleurs, Alain, parce que vous avez évoqué on dirait que même les leaders politiques perdent espoir, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Afrique, en RDC, partout, pour occuper par exemple des postes politiques, et quand quelqu'un n'est plus par exemple dans les affaires, et automatiquement il se replie sur l'Europe. C'est déjà même dans un désaveu au niveau même de la conception elle-même des leaders.
Effectivement, ce sont des gens qui n'ont plus d'espoir. Ce sont des gens qui ne croient plus au développement du pays. C'est ce qui justifie leur attitude. Ils se comportent en charognards. Ils se comportent en vampires. Ils préfèrent plutôt voir le Congo mourir ou l'Afrique mourir.
Merci.
Que de se battre pour que nous arrivions à atteindre les niveaux de vie de l'Europe. C'est possible. Les Européens ne sont pas des magiciens. S'ils sont arrivés à avoir
des standards de vie,
c'est parce qu'ils ont investi. Investissons.
Merci, merci beaucoup Alain. Et merci à tous les auditeurs, vous avez été nombreux. Merci pour votre sympathique attention.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde de ce magazine pendant cette semaine. Merci à Agir Lungembo qui était à la réalisation et la coordination. Pierrot Elamegi vous a présenté cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir, on se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à tous.